Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, discours de politique générale deuxième avec une avalanche de réformes ventilées par Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée pour marquer le second souffle du quinquennat. Détail et analyse dans un instant. Et l'on verra que la droite défaite aux européennes a l'intention de se serrer les coudes et de voter contre bien plus massivement qu'en 2017. Lui, c'est sûr, ne votera pas la confiance au Premier ministre. Votre invité est insoumis, Nicolas.
Oui, François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme. Il est l'invité du grand entretien dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous, le standard est là, 01 45 24 7000.
Exercice périlleux pour Jean-Dominique Senard chez Renault, aujourd'hui premier AG des actionnaires et premier doute sur sa stratégie. À la une également, le serial preneur d'otages de Condé-sur-Sarthe. Les Peuls accusés de tous les maux après les massacres de Dogon en Afrique de l'Ouest. France-Norvège, deuxième match des Bleus au Mondial féminin de football à guichet fermé à Nice. Et puis le cinéma de Cazavetz à la Cinémathèque française.
France Inter.
Il va le modifier jusqu'à la dernière minute, ce deuxième discours de politique générale dont on dit qu'Édouard Philippe a jeté la première mouture lundi, c'est dire l'importance qu'auront ces mots à 15h à l'Assemblée, après des mois d'omniprésence présidentielle dans la foulée de la crise des Gilets jaunes. C'est lui qui va lancer les réformes de la suite du quinquennat. Il y en a beaucoup. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Le Premier ministre en a une liste longue comme le bras.
Et il y aura les retraites, mais sans la part budgétaire, la dépendance, la loi sur la bioéthique avec la PMA. Très attendue, cette réforme sera bien lancée et votée au plus vite, promet l'exécutif sans plus de détails. Au programme aussi, réforme des institutions ou encore de l'administration, nouveaux engagements écologiques. Le discours doit détailler les principaux chantiers et préciser le calendrier politique au moins jusqu'au municipal de mars 2020. Il risque d'y avoir de l'embouteillage parlementaire.
Alors voilà pour le fond. Sur la forme, Édouard Philippe va décliner le changement de méthode martelé par Emmanuel Macron.
Alors tout a été calé et tranché jusque tard dans la nuit à l'Élysée. Emmanuel Macron a réuni entre autres son Premier ministre, Richard Ferrand, François Bayrou, avec comme priorité un changement de méthode que le président a esquissé hier à l'Organisation internationale du travail. Ce sera humanité, proximité. C'est la leçon retenue par le président de la crise des Gilets jaunes. Il admet une erreur fondamentale, avoir construit des bonnes réponses, trop loin, dit-il, de nos concitoyens en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et cette proximité passera donc par le respect des engagements de sa campagne, revenir à l'essence même du macronisme. Édouard Philippe a pour consigne de délivrer cette feuille de route de l'acte 2. Au président, le quotidien, le sens profond de l'action et surtout la réconciliation du pays, confie Emmanuel Macron. Le Premier ministre, poursuit-il, prend pleinement son rôle d'exécution gouvernementale. Édouard Philippe n'est plus un simple collaborateur, comme dirait Nicolas Sarkozy, mais en version Macron, un exécutant. Changement de méthode, mais pas changement de main.
Cyril Graziani, merci. Et qui votera la confiance après ce discours? Les voix seront scrutées une par une, surtout celles de droite. Lors du premier discours de politique générale, celui de 2017, 370 députés avaient voté pour et une grande majorité des Républicains s'étaient abstenus. Paradoxalement, ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. Alors des défections à droite, ceux qui restent pourraient bien serrer les rangs, Élodie Forêt.
Voter contre, quasiment comme un seul homme, c'est ce qu'espère Christian Jacob, patron des LR à l'Assemblée. Pas de consigne de vote, mais une incitation à faire bloc pour prouver que la droite existe encore. Daniel Fasquel, trésorier du parti.
C'est vrai que dans le contexte présent, plus nous serons nombreux à voter dans la même direction, et mieux ce sera un signal de solidité envoyé à nos électeurs, nos adhérents, nos militants.
Et même parmi ceux dont la voix se veut plus nuancée, certains veulent voter contre, comme Éric Pogé, toujours LR, mais aussi adhérent de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse.
C'est pas histoire de resserrer les rangs, c'est que là on peut juger sur pièce. Moi en 2017 je me suis abstenu, vraiment au bénéfice du doute. Au bout de deux ans, maintenant on peut faire sur pièce. Sur un tas de sujets, je crois qu'ils sont pas allés au bout du chemin.
Au final, seule donc une poignée d'élus LR pourraient s'abstenir. Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, attend le discours pour se décider.
Qu'est-ce qui ferait m'abstenir? Ça serait un Premier ministre qui reconnaisse ses erreurs. Ça prêterait à réfléchir, c'est vrai.
Arnaud Viala, député de l'Aveyron, pourrait lui aussi choisir l'abstention constructive. Il compte s'en s'en expliquer avec une vingtaine d'autres élus dans une tribune. Bien loin en tout cas des 75 abstentions de 2017 et de l'hémorragie dont rêve la majorité. Quant au vote pour, sauf surprise, il sera inexistant, à l'exception probable de Jean-Carles Grelier, futur transfuge, qui va rejoindre le groupe UDI Agir et Indépendant.
Les Républicains occupés à leurs propres affaires, hier soir ils ont fixé des règles pour élire leur président, poste vacant depuis la démission de Laurent Wauquiez. Les candidats à l'élection interne du mois d'octobre devront s'engager à ne pas se présenter à la présidentielle de 2022.
Il est 8h06 et un autre grand oral aujourd'hui, Florence, celui de Jean-Dominique Senard devant les actionnaires de Renault.
Première assemblée générale sans Carlos Ghosn depuis 20 ans. Les questions vont sans doute se bousculer sur la stratégie du nouveau patron. Pourquoi n'a-t-il pas prévenu les Japonais de Nissan avant de négocier avec Fiat? Quels sont ses projets pour l'Alliance? Jean-Dominique Senard est attendu au tournant, pronostique Franck Daou de la CFDT Renault.
Assez sportif, oui. On s'attendait à autre chose, on s'attendait à une AG beaucoup plus sereine, avec des annonces qui aillent dans le bon sens, dans le sens d'une stabilité, d'une reconstruction. Et là, la reconstruction, au fur et à mesure que l'on construit, le bâtiment est de plus en plus brinque-ballant. Donc il y a une crise latente depuis le mois de novembre, depuis l'affaire Ghosn, avec nos amis japonais. Donc c'est une crise qui a déstabilisé l'Alliance, il ne faut pas qu'on se cache derrière son petit doigt. Là, il y a vraiment des sujets de gouvernance et je pense qu'il y aura des questions sur la gouvernance. Et couche supplémentaire, il y a ce dossier Fiat qui est arrivé un peu précipitamment avec des amis japonais de Nissan Mitsubishi qui ont été mis au courant très tardivement. Donc ça ne va pas dans le sens d'une sérénité, d'une certaine paix. Et ça crée de la défiance. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Et tant que déjà en interne, on n'est pas clair sur notre fonctionnement, on va au-devant de problèmes qui vont se succéder.
Franck Daou au micro de Maxime Debs. Les petits actionnaires seront d'autant plus vigilants que leurs actions sont au plus bas, autour de 55 euros en ce moment. 4 heures de prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe hier soir. C'est un détenu qui a retenu deux surveillants dans sa cellule avec des armes de fortune. Il demandait son transfert. Il a fini par se rendre vers 23h30. Ce centre de détention abrite des détenus particulièrement dangereux et de fait, Thibault Lefebvre, le prisonnier Dorfer, est emprisonné depuis l'âge de 16 ans pour vol, pour viol, puis pour avoir tué un co-détenu. Il en a 35 aujourd'hui et c'est sa sixième prise d'otage.
Nancy en 2006, Clairvaux 2009, La Santé l'année suivante, puis Poissy en 2011, Ensisheim il y a 2 ans et enfin Condé-sur-Sarthe. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. Une arme artisanale, une fourchette bricolée ou un morceau de bois taillé en pointe. La même cible, des surveillants ou des psychiatres. Des agressions sans effusion de sang, avec des revendications sur ses conditions de détention et le plus souvent, la même demande. Francis Dorfer veut être transféré à l'Est près de sa compagne et de son fils de 9 ans, Thomas Ellenbrandt, et son avocat de toujours.
L'administration carcérale, c'est presque ses parents, puisque depuis l'âge de 16 ans, il ne dépend que de l'administration carcérale, puisque ses parents ne sont jamais, pour ainsi dire, venus lui rendre visite. Et il a grandi avec l'administration carcérale, et lorsqu'elle se montre injuste avec lui, il a une réaction qui est un peu celle d'un enfant à l'égard de ses parents lorsque il a l'impression d'être injustement puni.
Selon le ministère de la Justice, Francis Dorfer est connu pour des troubles psychiatriques. Il fait aussi l'objet d'une surveillance renforcée depuis son inscription au répertoire des DPS, les détenus particulièrement signalés.
Et puis toujours au chapitre judiciaire, la cour d'appel de Besançon va examiner la demande d'incarcération de Frédéric Péchier. Aujourd'hui, l'anesthésiste est mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Il est resté libre jusqu'à présent. À l'étranger, c'est un premier recul à Hong Kong face aux milliers de manifestants qui s'opposent aujourd'hui encore aux extraditions vers la Chine. Le gouvernement a décidé de reporter l'examen de ce projet de loi. Ce matin, les principales artères de la ville sont bloquées, la circulation paralysée et des dizaines d'entreprises et de commerces fermés.
Il est 8h09 en Afrique de l'Ouest, Florence. Voilà maintenant le conflit ethnique le plus inquiétant du moment.
Ravivé à chaque massacre, comme dans ce village d'Ogon du Mali dimanche. Et ce sont les Peuls que l'on accuse et auprès de qui l'on se venge. Communauté musulmane que les djihadistes essayent d'enrôler dans toute la région. Explication limpide de Claude Guibal, envoyé spécial de France Inter au Burkina Faso.
À l'arrière d'un café de Ouagadougou, un homme montre une photo sur son téléphone, celle d'un corps supplicié, celui d'un Peul, victime de représailles après une attaque djihadiste. Daouda Diallo est le porte-parole du collectif de lutte contre la stigmatisation des minorités.
On suspecte de plus en plus les Peuls comme étant l'ethnie ou la communauté qui anime le terrorisme. Donc ça amplifie la stigmatisation, ce qui amplifie également les tensions communautaires.
Les Peuls, ce peuple d'éleveurs musulmans, ce sont plus de 40 millions de personnes réparties sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. À leur égard, il y a la défiance ancestrale pour les nomades, pour ceux qui n'ont pas de terre, pas d'attache autre que leurs bêtes. Il y a la haine sourde des agriculteurs majoritaires qui les accusent de détruire les terres et les récoltes au passage de leur bétail. Des terres qui, avec le dérèglement climatique, deviennent de plus en plus rares, de plus en plus précieuses, de moins en moins partageables. Un peuple non scolarisé car itinérant, un peuple pauvre que le prédicateur Amadou Koufa, chef de la Katiba du Massina, un des principaux groupes djihadistes africains, cherche à faire basculer dans le djihad en exploitant ce sentiment de rejet à leur égard. Stratégie redoutable pour déclencher des cycles de violence intercommunautaire et déstabiliser des États devenus ainsi ingouvernables.
Voilà, indispensable décryptage signé Claude Guibal pour comprendre ce qui se joue en Afrique de l'Ouest en ce moment. Vous pouvez le retrouver sur franceinter.fr. Au Soudan, les discussions vont reprendre entre contestataires et militaires au pouvoir. Des militaires que George Clooney, très engagé dans la région, appelle à sanctionner financièrement en traquant l'argent sale en provenance du Soudan pour les faire plier et rendre le pouvoir aux civils. Voilà ce qu'il écrit dans une tribune aujourd'hui. 5 grammes de plastique par semaine, voilà ce que nous ingérons selon l'université australienne de Newcastle à qui le WWF a commandé un rapport. 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte de crédit ingurgitée avec l'eau en bouteille, la bière, les fruits de mer ou bien le sel. Et c'est une carte en plastique justement qui va remplacer progressivement les tickets de métro à Paris à partir d'aujourd'hui, carte rechargeable à la place des carnets et des tickets à l'unité qui disparaîtront définitivement en 2021. Donner son avis sur tout et tout le temps, ça se passe comme ça désormais pour les restaurants, les boutiques, les hôtels, mais aussi pour les notaires, les avocats ou les médecins. L'un d'entre eux a décidé d'attaquer Google en justice, un praticien de qui a demandé hier en référé la suppression de sa fiche sur le moteur de recherche, Cécile Soulet.
Aucune empathie, toujours sur son téléphone, je suis déçue, voilà quelques-uns des avis négatifs mis en ligne. Mais ce médecin n'a aucune possibilité d'y répondre sur Google, ni même de savoir qui les a écrits. À défaut d'obtenir leur suppression, son avocat Xavier Yocoum demande la levée de l'anonymat.
On demande la condamnation de Google à nous délivrer les identités réelles de ces personnes qui aujourd'hui se cachent sous un anonymat de mauvais aloi, afin que nous puissions vérifier s'ils existent, qui ils sont, et leur demander d'amender leur comportement négatif. Les études montrent que les avis qui sont publiés sur Internet influent sur les consommateurs.
Et le médecin affirme que la fréquentation de son cabinet a baissé. L'avocat du géant américain plaide de son côté la liberté d'expression, des avis qui ne sont pas diffamants et refuse leur suppression. Mais l'ordre des médecins de Moselle, via son avocat Maître Louvel, soutient la démarche du docteur Messin car ses avis pollue l'ensemble de la profession.
Un médecin a décidé d'engager une procédure contre ce géant Google. Beaucoup d'autres médecins souhaiteraient pouvoir faire de même. C'est une réelle anarchie qui a été mise en œuvre du fait de la création donc de ces avis.
Des restaurateurs, des avocats s'en plaignent aussi. Face au juge, l'avocat du médecin a même expliqué avoir trouvé sur Google un avis négatif sur un juge d'instruction du tribunal de Metz.
C'est plus qu'un score de baby-foot, 13-0 pour les championnes du monde américaines hier soir. Face aux Thaïlandaises, 13-0, ça fait un but toutes les 7 minutes en moyenne. Et c'est tout ce qu'on souhaite aux Françaises qui joueront leur deuxième match du mondial ce soir à Nice face à la Norvège. À guichet fermé, les 35 000 places du stade ont toutes été vendues. Reportage sur place signé Yann Gallic.
Ici, la Coupe du Monde féminine s'affiche sur les abribus et sur les trottoirs le long de la promenade des Anglais. Une fan zone avec écran géant a été installée face à la mer. Les bars de la vieille ville diffusent la plupart des matchs, mais sans véritable engouement pour l'instant. À Nice, c'est surtout l'équipe de France qui suscite la curiosité. Ce soir, les Bleus joueront dans un stade plein, soutenu par de nombreux supporters comme Marc. Ce jeune niçois ira voir le match avec des amis.
Que ce soit équipe de France masculine, féminine, je suis toujours là, supporter à fond. Ça fait depuis la dernière Coupe du Monde que je suis le football féminin et on a une très très belle équipe en plus, donc je pense qu'elle va aller très très loin pendant cette Coupe du Monde.
Grand amateur de foot, Marc a même acheté des billets pour toutes les rencontres de la compétition qui auront lieu à Nice.
Moi je vois qu'il y a un grand essor déjà du football féminin, cette Coupe du Monde va encore plus renforcer ça je veux dire, et je pense qu'en France on a la chance d'avoir de plus en plus de très très bonnes joueuses, que ce soit centre de formation, je pense notamment à l'Olympique Lyonnais qui a remporté la Coupe d'Europe. Je pense au PSG aussi qui a une très bonne équipe féminine et d'autres équipes en essor comme Montpellier et tout. Donc je suis très confiant pour cette Coupe du Monde.
Marc rêve de voir l'équipe de France remporter cette Coupe du Monde. Ce serait vraiment l'idéal, dit-il, pour que le football féminin devienne encore plus populaire dans notre pays. À Nice, Yann Gallic, France Inter.
Et en cas de victoire, les Bleus seront quasiment assurés de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Enfin, ils filmaient les clubs de jazz comme personne, les visages en gros plan, à commencer par celui de Jenna Rollands, New York, l'alcool, Peter Falk, ailleurs que dans Colombo. Le cinéma de John Cassavetes est à l'honneur à la Cinémathèque française. Mathieu Culeron, c'est l'occasion de découvrir ou de revoir ces films cultes qui ont eu tant d'influence sur le cinéma.
Please don't touch me, I want to go home.
Acteur reconnu dans les années 50, John Cassavetes devient réalisateur et fera 12 films sur 4 décennies, dont plus de la moitié sont des chefs-d'œuvre absolus. Cassavetes qui change profondément le cinéma mondial. Frédéric Bonneau est directeur de la Cinémathèque.
En fait, c'est quelqu'un qui a tout changé. En 1957, soit un peu avant la nouvelle vague française, hein, en fait, avant Godard, avant les cahiers du cinéma, il décide de faire un film en indépendant à New York à partir d'une improvisation théâtrale et ce film s'appelle Shadows.
Shadows, directed by John Cassavetes.
Cassavetes raconte le réel de l'Amérique moyenne et c'est une révolution. En 1974, une femme sous influence devient une référence pour des générations de cinéastes.
Go to the hospital until you get better.
Quand on voit une femme sous influence, il est évident que c'est un cadeau sublime à une actrice sublime qui est la femme de sa vie, qui est Jenna Rollands. Cassavetes, c'est le premier qui accorde à des Américains moyens, de par leur classe sociale, d'avoir des mots que Hollywood ne leur accordait pas.
La rétrospective John Cassavetes à la Cinémathèque, l'occasion unique de revoir l'acteur, le réalisateur et l'icône du cinéma indépendant américain jusqu'au 22 juin prochain.
Uppers, downers, inners, outers. What did you tell him, Mama, that I drink?
Et ça, c'est la voix de Jenna Rollands dans Une femme sous influence, à voir ce samedi sur grand écran, donc à la Cinémathèque, et tous les films de Cassavetes sont à voir jusqu'au 22 juin.
Merci Florence Paracuelos.